Très bien. Peut-être on peut commencer par. On n'a pas vraiment eu le temps de creuser les applications de la dernière fois, la deuxième partie du discours. Donc si quelqu'un veut rajouter un mot, je me faisais la réflexion que dans cette deuxième partie du discours, on nous présente un salut qui n'est pas seulement un salut personnel, mais un salut plus large, hein, puisque juifs et païens sont inclus dans l'annonce de la bonne nouvelle. Et on sait, nous, que si c'est la promesse d'Abraham qui est en train de se réaliser, c'est plus que cela. Ça vise très globalement l'humanité. Voilà. Bon. Donc on est devant quelque chose d'intéressant. Et la deuxième chose dont on a pas mal parlé, c'était la méconnaissance. C'est d'ailleurs faisait partie d'une des questions sur le texte. La méconnaissance du plan de Dieu ou de la volonté de Dieu n'est pas une excuse en soi. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on peut déduire de cette deuxième partie du discours. La méconnaissance est toujours coupable, si vous voulez, pour l'écriture. Donc, à bon entendeur, salut. Même s'il peut y avoir des circonstances atténuantes. En l'occurrence ici, on sait que la méconnaissance d'Israël fait partie du plan aussi. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un refus de reconnaître en Jésus le Messie, c'était une porte grande ouverte pour les païens. Donc ça fait partie de cette fameuse réalisation de la promesse. Après, on se dit, oh oui, c'est pas chouette ça pour les juifs. Mais les juifs restent le peuple élu, donc on peut déjà se consoler et puis se dire que le salut leur est destiné, puisque à la fin des temps, comme disent certains apocalyptiques, Israël sera pleinement dans la reconnaissance de ce Messie. Voilà. Sauf que pour eux, ce sera la première fois qu'il vient. C'est la petite différence avec nous, quoi. Voilà, je ne sais pas s'il y a autre chose que vous vouliez rajouter pour la fois passée. Non, dit Lynn, bon, ça va. Tout est dit. Ok, très bien. Comme ça, on peut peut-être attaquer avec la lecture du prochain.
Il doit pas enregistrer, non? Il n'y en a pas.
Mais il marche, je crois, il tourne.
Ah,
hein.
Ça va de là?
Non, là, c'est là. La tablette. Là.
Non, la tablette.
Ah, bon.
Bon, je ne la vois pas clignoter. Mais...
Ah oui, non, c'est pas non.
Voilà. Ok, donc, on recommence, on termine plutôt la troisième partie du discours. À partir du verset 38, auquel j'ai ajouté, comme vous l'avez bien compris, deux versets supplémentaires, puisque normalement on voulait s'arrêter à 41, mais en étudiant le texte, je me dis c'est un peu bête de ne pas apporter ces deux versets supplémentaires comme conclusion ou réaction au discours de Paul. Ça peut nous éclairer d'ailleurs pour la suite, et comme ça, après, il nous restera une dernière partie du chapitre 13 pour terminer le 13e chapitre. Ça vous va? Donc, si quelqu'un veut faire la lecture, on peut tout faire, hein, 38 à 43. C'est sympa.
Je veux bien. Sachez-le donc, frère, c'est grâce à lui que vous vient l'annonce du pardon des péchés et cette justification que vous n'avez pas pu trouver dans la loi de Moïse. C'est en lui qu'elle est pleinement accordée à tout homme qui croit. Prenez donc garde d'être atteint par cette parole des prophètes. Regardez, vous les arrogants, soyez frappés de stupeur et disparaissez. Je vais en effet de votre vivant accomplir une œuvre que vous ne croiriez pas si quelqu'un vous la racontait. À leur sortie, on pria instamment Paul et Barnabas de reparler du même sujet le sabbat suivant. Quand l'assemblée se fut dispersée, un bon nombre de juifs et de prosélytes adorateurs accompagnèrent Paul et Barnabas qui, dans leurs entretiens avec eux, les engageaient à rester attachés à la grâce de Dieu.
Donc on aborde ce soir la dernière partie de ce discours de Paul. Je ressouligne une fois de plus que c'est le premier discours qui nous est rapporté par Luc au sujet de Paul, un discours en entier Oui, si tu as. Mais j'en avais, mais je ne sais pas où elle est passée. Je peux la mettre. Donc je finis ma phrase. Donc un discours adressé uniquement, enfin dans une synagogue à destination de juifs, parmi lesquels quelques gentils craignant Dieu, voilà, c'est bien gentil. Mais après, dans le reste des actes, on va surtout voir des discours prononcés devant des païens, ou en tout cas des nations païennes comme les Grecs, etc. Donc ça va être sensiblement différent au niveau des arguments. Et puis, donc cette dernière partie du discours, les versets 38 à 41, creuse un petit peu plus, si vous voulez, la deuxième partie du discours. La deuxième partie de son discours, c'était la démonstration que Jésus était le Messie, en gros, que ça correspondait aux prophéties bibliques. Et maintenant, l'apôtre va inviter ce public qui, jusque-là, ne s'est pas offusqué, n'a pas commencé à vociférer. Il invite ce public à croire en ce Messie. Non pas seulement savoir qu'il est venu, mais à s'engager par rapport à lui, à en être disciple, entre guillemets, suiveur, si vous voulez. Voilà donc pour une petite présentation de cette dernière partie du discours. Alors, qu'apprend-on au verset 38? Qu'est-ce qu'il y a de neuf, là, par rapport à ce qu'il nous a déjà dit dans son discours?
Il annonce le pardon des péchés.
Okay. Donc, il y a plusieurs choses, hein, non, en tout cas dans les versets qui vont suivre. Il part du pardon des péchés. Pourquoi part-il de ce point-là? Est-ce que vous voyez un lien avec ce qu'il dit dans ce verset? Est-ce que... Comment était-on pardonné?
En faisant les sacrifices.
Voilà. Donc, avant même de parler de la loi, il met vite en place le bloc pardon des péchés, qui pour tout juif veut dire offrir des sacrifices chaque fois que j'ai fauté, si possible les offrir au temple, c'est encore mieux, hein, pour être acquitté, pour avoir recevoir le pardon de Dieu au travers de la prêtrise et des sacrifices. Et puis là, il associe immédiatement le pardon des péchés, non plus avec l'autel des sacrifices, mais avec celui qui, dans son esprit, est l'agneau de Dieu. Donc le sacrifice parfait, si vous voulez. Donc il commence par parler du pardon des péchés à cause du rituel des sacrifices. Et il va en déduire un certain nombre de choses. Si c'est lui qui délivre, qui donne, qui nous accorde le pardon des péchés, c'est donc que... Oui, bien que si on fait attention au texte prophétique... On ne nous dit pas nécessairement que le Messie est celui qui va pardonner les péchés d'Israël, il va guider le peuple, etc. Et donc, Paul innove un tout petit peu ici en précisant le rôle que ce Messie a pour Israël, mais pour tous les peuples, en réalité.
Donc pour eux, dans l'Ancien Testament, dans la Torah et tout ça, c'était pas clair que Jésus est venu pour sauver.
C'est clair qu'il est venu pour les délivrer. Mais ce n'est pas la même chose de parler de la rémission des péchés ou de la rédemption, si tu veux.
Et délivrer du péché, c'est pas possible non plus. Être délivré
de la mort.
On peut l'être. Mais le Messie, oui, le Messie a quelque chose à voir avec la pérennité, avec l'éternité, avec la durée sans fin, si je puis dire, de la présence de Dieu avec son peuple. Sous-entendu, si Dieu est présent parmi nous, lui qui est le Saint des Saints, c'est qu'on ne pêche plus. Vous voyez, c'est tout ça qui se joue dans la tête d'un juif. Du coup, annoncer le pardon des péchés maintenant, pour le présent, lié à l'histoire d'un homme qu'on a crucifié sur une croix, c'est sans doute plus difficile à admettre. Pire encore, c'est ce qui suit dans le verset 39, c'est que non seulement... C'est lui qui nous accorde, c'est un peu, si vous voulez, le grand prêtre, hein, c'est ce qu'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux, qui nous accorde le pardon des péchés, mais il nous l'accorde parce que la loi n'est plus indispensable. Et ça, c'est beaucoup un argument encore plus fort, si vous voulez, dans la bouche de Paul. Hein. Il faut bien se rendre compte de ça. On est à la limite du blasphème pour une oreille juive. Dire que la loi de Moïse, ça compte un peu pour du beurre. Hein. Et pourquoi comment il explique la chose? Comment il démontre que la loi est insuffisante? Bon, je sais que c'est très peu de mots. Hein.
Il attaque ferme, quoi.
Ah oui, mais il annonce clairement les choses, comme Pierre l'avait fait, d'ailleurs.
Hein. Pas de préambule. Tu vois,
Vous n'avez pas pu trouver dans la loi de Moïse la justification.
Exactement. Sous-entendu, vous êtes condamné à répéter le sacrifice pour avoir dans le présent un pardon. Pour ne pas être détruit, si vous voulez, par le péché. Ne pas être maudit par Dieu. Vous avez besoin des sacrifices de manière quotidienne, quasiment. Mm. Voilà. D'ailleurs, même pour des choses qui ne sont pas de l'ordre du péché. Si vous connaissez un peu la loi, quelles sont les situations dans lesquelles il faut aller offrir un sacrifice quand on n'a pas péché? C'est bien dit, hein, ça. Ben, on devait offrir des sacrifices si on avait été en contact avec un défunt. Avec un défunt, par exemple. Pourtant, tu n'as rien fait de mal. Hein. Voilà. Ouais. Tu t'es occupé de ton défunt, puis tu dois lui offrir un sacrifice. Si la femme a ses menstruations, paf, elle doit courir au temple le septième jour pour aller offrir quelque chose, etc. Donc toujours, c'est pas simplement du pardon, c'est aussi de la purification.
Ben oui, c'est ça.
Et voilà qu'en Christ, justement, tout est donné en même temps.
Oui, évidemment, quand on soignait un blessé et qu'on touchait le sang, il fallait
exactement
aller se purifier.
Donc, toutes ces situations, une maladie de la peau, c'est même, bon, dans la Bible, on dit la lèpre, mais c'est toutes les maladies de la peau, hein, en gros. Mais pas simplement la lèpre. Donc dès qu'on avait un petit truc pas normal, pop, il fallait faire des ablutions, puis il fallait courir au temple après un certain temps, offrir un sacrifice, puis un autre d'action de grâce, puisqu'on avait été guéri. Vous voyez, c'était pas simplement pour des péchés. Donc lui, il associe dans son discours le rôle qui est accordé à Dieu. C'est lui qui accorde le pardon des péchés sur base de la loi et du respect de la loi de Moïse. Et puis il lui dit, mais non, écoutez, c'est bien gentil, votre loi de Moïse, mais c'est insuffisant. En tout cas, c'est insuffisant si on veut avoir l'assurance de la justification. Alors, je vais le dire autrement pour que je puisse bien me faire comprendre. Puisque nous sommes pécheurs, comment vivre sereinement tous les jours sans devoir recourir à des rituels, des ablutions, etc. Eh bien, c'est la grâce et le pardon accordés par le Christ pour le Père, qui fait qu'on n'a plus besoin de s'interroger. Est-ce que j'ai deux tourterelles? Est-ce que j'ai encore le temps d'aller au temple? Oui. Et si j'habite pas à Jérusalem, comment je fais? Vous voyez, tout ça, ça rentre en jeu. Et en plus, ça devient universel. C'est-à-dire que le fait qu'il n'ait plus besoin de la loi de Moïse et des rituels du temple, ça ouvre le champ aux païens, qui, eux, n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple. En tout cas, pas s'ils n'étaient pas circoncis. Donc on peut imaginer que même le craignant Dieu n'avait pas le droit d'entrer au temple, parce qu'il n'était pas circoncis. Seul le prosélyte qui avait été au bout de la démarche, qui devient juif si vous voulez, seul celui-là avait le droit d'aller offrir un sacrifice au temple. Donc ça va loin. Ça veut dire que la promesse faite à Abraham que tous les peuples seront concernés par la bénédiction devient effective grâce à ce Messie-là, qui est premièrement le Messie d'Israël, bien entendu, mais qui l'est aussi en tant que sauveur pour nous, évidemment, parce que nous, il nous délivre des ténèbres, hein, globalement, dans lesquelles la barbarie était bien engoncée. Hein.
Bon. Un non-juif, il avait quand même le droit d'aller jusqu'au Paris.
Jusqu'au Paris, oui.
Mais il restait quand même une différence entre un gentil qui s'est fait circoncire et un gentil qui ne s'est pas fait circoncire et qui peut aller jusqu'au...
Exactement. Ouais. Tout à fait.
Il y avait quand même une...
Il y avait des possibilités, mais à la condition de devenir vraiment... Tu vois ce que je veux dire, ouais. D'être 100% devenu juif, si tu veux. Ouais. En adoptant tous les rituels, toutes les obligations, etc. Ouais. Ce qui était sans doute plus simple au 1er siècle, d'ailleurs, que maintenant. Parce que maintenant, aller au bout d'une conversion au judaïsme... Ça dépend sur qui tu tombes. Hein. Il vaut mieux le faire en Europe, à mon avis. Parce convertir au judaïsme parce qu'il y aura plus de facilité que si tu le fais sous le régime des orthodoxes. Parce que là, c'est moins rigolo. Il faut prouver plein de choses. Voilà. Donc, mais revenons à nos moutons. Ici, ce qui est assez fabuleux, c'est de découvrir en l'espace de deux versets que tout est lié au Christ et qu'en plus, pour nous païens, ça devient quasi une grâce d'être compris dans la famille du peuple, si vous voulez, de pouvoir suivre le Messie alors qu'on n'a pas de maîtrise de la loi juive. Même si j'étais un craignant Dieu, je ne maîtrise pas tout. Je ne maîtrise pas les textes. Et pour peu que je ne parle pas hébreu, alors je n'ai une connaissance de l'écriture qu'au travers de la Septante, au travers d'une version grecque, voire syriaque éventuellement, de manière un peu incomplète, si vous voulez. Ici, tout d'un coup, la porte est grande ouverte. Hein, c'est un peu ça. Alors, je n'ai pas le temps de faire une démonstration ce soir, mais on aurait pu prendre certainement un quart d'heure, 20 minutes, sur la notion de justification. Qu'est-ce que Paul met derrière le mot « justification » En tout cas, il oppose un pardon récurrent, obligatoirement récurrent, à une justification radicale et définitive. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sauvé ou pardonné, eh bien on peut vivre sans avoir besoin de recourir à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Or, c'est bien ça qui se passe, c'est que la justification par la loi de Moïse, ce n'est que pour le présent, immédiat. Chaque fois que je me sens en faute par rapport à l'Éternel, alors je fais cette demande de pardon, notamment au travers de rituels et de sacrifices. Tandis que le salut par grâce nous offre un pardon. Alors, comment je pourrais... J'arrive pas à trouver les termes. C'est un pardon toujours acquis, si vous voulez. Trouve pas d'autres termes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un pardon qui dure dans le temps.
Définitif.
C'est pas un pardon pour une faute par-ci, une faute par-là. C'est un pardon qui est accordé chaque fois, évidemment, qu'on se repent. Là, il faut quand même pas exagérer non plus, quoi. Hein. Je veux dire, faut au moins être conscient qu'on est pécheur un petit peu, hein, pour y avoir droit. Mais du coup, c'est un droit. Cette grâce-là, elle est accordée par la mort et la résurrection de Jésus à tout homme qui croit. C'est ce que Paul dit un peu plus loin. Tout homme qui croit, sous-entendu au Christ et à ce que le Christ apporte. Et donc, on pourrait passer, je dis, un quart d'heure, 20 minutes, à discuter de la justification, à voir ce que Paul a derrière la tête, et ça, on peut s'en rendre compte que si on lit un certain nombre de textes dans Romains, dans Galates, dans Éphésiens, et puis un petit bout de l'Épître aux Hébreux, même si ce n'est pas lui qui en est l'auteur, où on découvre quelle est la logique qui se cache derrière. La logique, c'est donc, si je devais résumer très très fort, qu'il y a insuffisance de la loi pour nous accorder un pardon éternel. D'accord ? C'est tout. Si on a compris ça, je pense qu'on a compris l'essentiel, et que donc il fallait l'observer de manière régulière à chaque erreur commise. Il fallait s'enclencher tout ce processus et puis croire que la loi de Moïse était suffisante pour m'accorder le pardon aujourd'hui. Voilà. Donc on pourrait presque dire aussi que cette justification en Christ, elle est parfaite par conséquent, totale, et qu'elle dure dans le temps. C'est pas juste pour une faute, c'est pour les fautes, et c'est pour les fautes de toute notre vie, puisque jusqu'à présent en tout cas, nous qui sommes dans la finitude, dans ce monde, bah, nous sommes condamnés à pécher, même si nous bataillons de toutes nos forces pour ne pas pécher. On ne pourra jamais dire « je ne suis plus pécheur ». Mais en Christ, je peux le dire. Le péché est aboli d'une certaine manière. En tout cas, Dieu n'en tient pas compte de la même manière qu'autrefois, c'est-à-dire du temps de la loi de Moïse. C'est comme si il y avait un effaceur immédiat, si vous voulez. Et par l'action du Christ, encore une fois, pas par l'action de la loi et de la répétition de la loi. Voilà, bon, j'espère que ça, c'est plus ou moins clair. Et donc, il poursuit donc au verset 39 par une déclaration qui, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas de réaction dans l'assemblée de la synagogue, hein, jusque-là, parce qu'il va jusqu'à dire que tout homme qui croit, hein, quiconque croit, sous-entendu, quiconque a la foi dans ce que je dis, et dans ce qu'est le Messie, le Jésus de Nazareth, eh bien, quiconque croit est justifié. Donc il ne faut plus offrir un sacrifice pour être justifié, il faut croire. Vous voyez ce que la petite différence, hein. Donc, comme si on pouvait avoir un état de justice parfaite devant Dieu. Comme si Dieu nous voyait juste alors que nous continuons à pécher. C'est un peu toute l'annonce aussi de la bonne nouvelle. Encore faut-il, je le répète, être conscient et pas faire exprès de pécher sous prétexte que la grâce nous est accordée, le pardon nous est accordé. Et donc il dit au fond, mes amis, la loi de Moïse ne nous permet pas d'atteindre cet état de perfection. Nous sommes en demeure de répéter le sacrifice. Or, la démonstration qu'il avait faite dans la deuxième partie de son discours, c'est que le Christ s'est offert, justement, que c'était son rôle d'être l'agneau pascal, hein, etc., et que donc, on passe à un autre régime maintenant. Mais donc, maintenant, j'insiste un tout petit peu sur cette déclaration « Tout homme qui croit ».
Cette image, il l'avait déjà eue avec Abraham, puisque Abraham, le père de la foi, n'a pas été jusqu'au bout du sacrifice, et il a été justifié par sa foi.
Oui.
Donc finalement, ben, c'est ce qu'il démontre ici. Il suffit de croire. Ce n'est pas le sacrifice qui va vous sauver.
Exactement.
C'est croire.
Enfin, d'autant que là, tu parles du patriarche, c'est-à-dire d'une époque où il n'y avait pas de peuple d'Israël. Il n'y avait donc pas les lois qui régissaient la vie en tant que nation, en tant que 12 tribus associées. Et donc, les patriarches offraient des sacrifices, comme d'ailleurs Abel, Caïn, etc. Enfin, tous ceux qui avaient une relation à Dieu, si tu veux, marquaient la relation par quelque chose qui se passe entre moi et Dieu. Ça a toujours été. Mais ce n'était pas des rituels pour être purifiés, ni des rituels pour être pardonnés. C'était des rituels, que je pourrais presque dire, d'action de grâce. Honorer Dieu pour ce qu'il est, pour sa bienveillance, et donc on offrait des sacrifices comme ça. Et chaque grand événement de la vie faisait que, au temps d'Abraham, ben, on offrait quelque chose, on construisait vite un hôtel, hein, que ce soit dans le désert, au bord du Jourdain, trois pierres, clic-clic, et puis on offrait un animal, et puis on se mettait dans les bonnes grâces de Dieu, si vous voulez, ou dans la reconnaissance pour Dieu, pour une délivrance, pour une naissance, pour tout ce qu'on veut, quoi. Et puis, évidemment, avec la nation, une fois que la nation est constituée, puis qu'elle entre en terre promise, puisque Dieu est saint, il faut un petit peu plus de rituels. Et nous n'oublions pas, évidemment, ça c'est nous chrétiens qui le savons grâce à Paul, la loi était là comme précepteur, pour montrer que c'est impossible d'être parfait, pour démontrer que nous sommes pécheurs. Et que si nous voulons être dans une relation avec le Saint des Saints, il faut quelque part montrer de la bonne volonté. Reconnaître son péché, offrir quelque chose, etc. Pareil pour eux. Alors maintenant, même si on ne parle pas de sacrifice, c'est un peu la même chose au temple. Il y a des choses qui sont offertes devant Dieu, y compris dans le Saint des Saints. Il y a des choses qu'ils doivent fumer, il y a des pains qui sont offerts, etc. Pas pour le pardon des péchés, mais pour entretenir cette relation du peuple avec leur Dieu. Voilà. Il y aurait plein de choses à dire. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait au moins 20 minutes si on voulait creuser la notion de justification, qui est comme une notion très très paulinienne, très nouvelle. Et moi, je m'étonne qu'il n'y ait pas de réaction dans l'assemblée de cette synagogue. Voilà. Je me dis, punaise, ils sont tolérants, les gars, parce qu'il va loin. Il va jusqu'à leur dire, vous savez, finalement, votre loi de Moïse... moi qui suis juif, je peux vous dire que c'est pas opérationnel, quoi. Il y a mieux.
Mais c'est aussi à cause de l'œuvre du Saint-Esprit à ce moment-là.
Quoi que Paul ose dire.
Paul, il parle. Il y a peut-être. Bon, ils sont peut-être bouleversés au début. Il y a des résistances, il faut que ça descende. Mais quand on va plus loin, on voit qu'ils accrochent.
Exactement. D'ailleurs, c'est ce qu'on aurait pu imaginer.
Du Saint-Esprit, pour moi.
C'est ce qu'on aurait pu imaginer un peu partout, y compris à Jérusalem. C'est en partie ce qui s'est réalisé. Car il y a quand même bien une église qui est d'abord juive. avant d'être judéo-chrétienne. Vous voyez ce que je veux dire ? Mmh. Avant qu'il y ait des païens associés à tout ça, il a fallu une église, c'est un peu paradoxal ce que je dis, une église juive, à 100% juive, qui suive le Messie. Mmh. Sinon, ça n'aurait jamais marché, tout simplement. Mmh. Donc ce qui se passe à Jérusalem et en Judée, c'est exceptionnel. Ça montre bien que les Juifs étaient potentiellement capables de reconnaître le Messie. Mais une partie de la nation étant pervertie par toute le rapport aux Romains, ne serait-ce que ça, les impostures, aussi bien au niveau du culte qu'au niveau de la classe politique, fait que le peuple a été détourné, comme au bon vieux temps des Baals. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Là aussi, Baal prenait le dessus, parfois, sur le territoire même d'Israël, parce que le peuple y accordait du crédit. Et puis parce qu'on peut toujours faire plier la conscience de quelqu'un. Il suffit de lui faire peur. Et on sait ce que c'est, la persécution. Hein, nous, les chrétiens, on le sait aussi. Voilà, il suffit d'être un peu fort, d'être un peu dur, de torturer 3 personnes pour que parfois on capitule et on dise ben « Non, je ne crois plus à ça. » Ça a été vrai au temps des guerres de religion, entre nous soit dit. Hein. Donc voilà. On imagine bien. Alors, je voulais m'accrocher, parce que vous me faites chaque fois griller, mais c'est bien. Je voulais m'accrocher à ces quelques mots « tout homme qui croit ». Qu'est-ce que vous déduisez de cette petite phrase ? Est-ce qu'il dit « tout juif qui croit » ?
Il élargit.
D'office. Et ça aussi, ça aurait dû faire réagir les juifs. Même s'il y a des craignants de Dieu dans la synagogue, ou des prosélytes, ça aurait dû les faire réagir que comment donc n'importe quel païen qui passe là dans la rue chez nous pourrait accéder à cette grâce, au pardon des péchés, au non-besoin du judaïsme en tant que règle, hein, en tant que loi. Moi, j'aurais été juif, j'aurais dit là tu y vas un peu fort quand même. Hein. Et pourtant, tout ça a l'air de passer. Donc tout homme qui croit, il ne s'agit donc plus seulement du juif, mais de tout humain qui s'attache au Christ.
Oui, c'est ça. Ça devient, pour moi, je vois ça comme ça, personnel. Donc, celui à côté de moi, il peut entendre la même parole et peut-être pas adhérer à ça. Mm-hmm. Et d'autres qui acceptent ça. C'est une foi générale, mais aussi personnelle.
Tout à fait.
Je vois ça comme ça.
En tout cas, une grâce qui est accordée à tous, et en particulier à celui qui la veut. À celui qui la reconnaît, à celui qui la désire, à celui qui dit « ça, c'est quelque chose qui va me libérer, c'est quelque chose qui va faire que je vais changer de vie. » Donc je place ma foi là-dedans, et là-dedans sous-entendu en Jésus, bien entendu. C'est ce qu'il est en train de prêcher, et en même temps, ça veut dire que ce qu'il prêche au sujet du Messie, c'est qu'il n'y a plus de différence, il n'y a plus cette fameuse distinction entre juif et gentil. Donc, on n'est plus dans un débat, faut-il se circoncire ou ne pas être circoncis ? C'est d'office, que tu sois circoncis, c'est bien, que tu ne le sois pas, c'est bien. Dans les deux cas, la même grâce vous est accordée, la même liberté d'être ensemble, c'était le cas de l'Église, je vous le rappelle, hein, pendant 4 siècles, en gros, plein de païens convertis au Christ, au Messie, fréquentaient les synagogues. Donc c'est clair dans l'esprit de Paul et d'ailleurs des 12, des disciples à Jérusalem, que tout homme qui reconnaît en Jésus le Christ peut adhérer sans problème, sans être circoncis, sans recourir à la loi nécessairement, etc. quoi. Donc ça c'est quand même une nouveauté dans l'annonce de la grâce de Dieu, une nouveauté pour des oreilles juives en particulier, et en même temps, de nouveau, et j'en reviens là parce que c'est très important de le comprendre, ce que Paul est en train de dire, c'est que la promesse est en train de s'accomplir. Pas n'importe quelle promesse, celle faite à Abraham, c'est-à-dire une multitude de descendants. Alors, évidemment, jusque-là, les Juifs avaient lu descendants dans le sens spermatozoïdal du terme, si vous voulez. Voilà, on engendre quelqu'un qui lui-même devient un suiveur d'Abraham, etc. Mais la vraie promesse, c'est beaucoup plus large. Ce n'est pas simplement une descendance liée à la chair, c'est une descendance spirituelle. Tout homme qui est comme Abraham, c'est-à-dire qui accède à la foi et qui vit par la foi. Tout homme est alors inclus dans la réalisation de cette promesse. Et on voit donc que ce qui a été annoncé en Genèse d'une part, et puis dans le cadre de la vie d'Abraham, devient une réalité là. De nouveau, une réalité messianique, entre nous soit dit. Parce qu'oser prêcher comme ça dans une synagogue, c'est dire que Paul est convaincu de ce qu'il est en train de raconter. C'est-à-dire maintenant, la promesse est pour maintenant. La promesse se réalise à l'instant, au moment où je vous parle. C'est ça qu'il leur dit, au fond. Hein. Au moment où je vous parle, vous qui êtes ici à 80% juifs et à 20% païens d'origine, vous entendez la même bonne nouvelle. Et vous pouvez y adhérer, vous pouvez y accorder votre confiance, etc. Et donc, comme tu l'as fait remarquer tout à l'heure, on se rend compte dans les versets qui suivront qu'il y a une grande adhésion. Les gens en reveulent pour le sabbat suivant. D'accord ? On y reviendra dans un moment. Donc je pense que c'est très très important de bien garder en filigrane cette idée de promesse faite à Abraham, réalisation immédiate dans le présent. C'est maintenant, parce que c'est l'ère messianique, c'est maintenant que ça se joue. Et alors ?
Et les musulmans qui disent qu'ils reconnaissent Jésus comme prophète.
C'est un peu court.
Ils viennent dire, ben oui, mais ils disent, ben voilà, on croit en Jésus comme prophète, donc on croit quand même en Jésus, donc on est justifié et sauvé. Mm-hmm. Je ne sais pas ce qu'il faut répondre à ça, j'ai eu le cas dimanche passé.
Ben, je trouve que ça s'éloigne quand même un peu du Coran, l'air de rien. Oui. Non, c'est vrai qu'ils reconnaissent en lui un prophète, un grand prophète même.
Qui reviendra pour juger. Hein.
Oui, mais c'est ça qui est assez anachronique. Parce qu'il
n'est pas mort. Aussi, hein. On a la foi d'Abraham.
Donc, il n'est pas mort, on l'a caché. Allah a menti, il a caché.
Ouais.
Il a menti. C'est ce qui fait douter les musulmans. Hein. Les musulmans commencent à douter parce que quand ils se rendent compte Allah a menti aux musulmans pour cacher la vérité, finalement, et il n'est pas mort, il a fait un truc là, de magie, et finalement, Jésus n'est pas mort. Et
Jésus n'est pas mort.
Non, c'est l'espèce de sosie qui est mort, sur la croix.
Ah oui.
Si tu vas au bout du raisonnement islamique.
Il n'est pas mort, et c'est lui qui va revenir pour juger.
Parce que justement, il n'est pas fils de Dieu, mais étrangement, il se mélange un peu les pinceaux, parce qu'à la fin, il vient quand même pour juger.
Il vient pour juger Mahomet.
Mais au nom de c'est quoi, écrit. Alors, tu vois ? Si tu n'es que prophète, tu n'es qu'un homme parmi les
voilà, ben c'est ça que ça cloche.
Tu n'es pas saint.
Donc celui
tu
qui...
n'es pas juste.
Ah non ? Comment est-ce qu'il pourrait juger ? Ou alors tu reconnais sa divinité. Mais ça, c'est pas ce qu'ils font.
Donc jamais. Donc, si tu dis que Jésus est Dieu, tu vas te faire lyncher.
Ah oui, il se rend compte que c'est un mensonge. Si, quand il, tu vois, quand ils mettent les choses l'une à côté de l'autre, comme je viens de
le dire. En tout cas, si tu as lu le Coran en entier, si tu l'as médité, tu t'aperçois qu'il y a quand même deux, trois trucs qui tombent par rond.
On devrait être au courant, hein, parce qu'on rencontre maintenant beaucoup de musulmans.
Ah ben de plus en plus.
Hein. Mais oui. Et on n'est pas formé
pour avancer des histoires. L'école du Coran.
Mais Saint-Livant a fait des études pour justement parler aux musulmans. Et il expliquait l'autre jour qu'il ne faut jamais les attaquer avec des arguments.
Oui, oui.
Il faut les faire réfléchir, entrer dans leur logique pour arriver à ce que vous venez de dire. Ah, tiens, ça c'est vrai, il y a une faille.
Il faut connaître
la logique. Mais il faut être capable, c'est pas donné.
Moi, j'ai un copain qui était prof à l'UNIF, hein, très versé dans l'hébreu, dans l'arabe, il parle couramment les deux langues, etc. Et puis chaque fois qu'un musulman dans son quartier, c'est bourré de musulmans. Donc il va à l'épicerie, c'est un musulman, il va là, c'est un musulman. Enfin, à l'époque où il habitait à Bruxelles. Quand il entamait des conversations sur la religion, les autres lui disaient « Mais oui, mais toi, t'es un mécréant. Bon, t'es un mécréant parce que t'es blanc, t'es un mécréant parce que t'es un intellectuel, tu enseignes des bêtises à l'université, etc. Mais nous, on croit au vrai Dieu et toi, tu n'es pas musulman. » Et lui, il répondait « Je crois en Abraham bien avant vous. J'ai toujours cru Abraham, donc je suis musulman. » Alors qu'il était chrétien jusqu'au bout des ongles. Puis après, il les a embarqués, poum, poum, poum. Bon, moi, je sais que je n'ai pas encore cette capacité. Mais il faut quand même maîtriser un peu le Coran. Parce que le nombre de musulmans qui ignorent leur propre écriture, leur écriture sainte, c'est incroyable. Du coup, tu les manipules comme tu veux. Enfin, je veux dire, tous les imams manipulent le peuple parce qu'ils ne connaissent pas le Coran.
Mais
c'est un peu moins vrai pour nous.
Oui, ils doivent le lire.
Ils doivent réciter deux, trois sourates et c'est bon comme ça, quoi.
Mais
ils l'écoutent de temps en temps.
Ils doivent le lire en arabe, c'est ça que je veux.
Entre autres, alors imagine, tous ne sont pas d'origine arabe.
Mais oui, c'est
tout le monde ne maîtrise pas l'arabe dans l'islam. En tout cas, tu as des pays entiers en Asie, ouais, ils savent pas, ils connaissent pas l'arabe, c'est tout. C'est un peu comme nous à l'époque du latin dans l'église.
Ouais, c'est ça, ouais.
Qu'est-ce que le petit peuple pouvait bien comprendre? Alors on regardait les vitraux pour pas s'embêter, ou on apprenait au moins quelque chose, quoi. Non, je rigole, mais c'est quand même, ça a été quand même comme ça longtemps pour nous aussi. Et on était donc manipulables en tant que petit peuple croyant.
On n'avait pas la parole.
C'était plus souvent de la superstition qu'une vraie croyance, quoi. Bon, revenons à nos moutons.
Ouais.
Donc après tout ça, tout ce qu'il vient de dire, qui était quand même pas mal hein, en termes d'argumentaire, déstabilisant certainement pour l'auditoire, qu'est-ce qui se passe à partir du verset 40? Est-ce qu'il y a un, comment dirais-je, un lien de cause à effet entre les versets qu'on vient d'étudier et à partir du verset 40, on a l'impression que tout bascule. Non ? Mais déjà, regarde les mots.
Non, mais ça, c'est des prophètes.
Oui, mais ça commence. Oui, c'est quand même une citation. Tu me demandes pourquoi elle est là. Prenez garde ! Après avoir été bien policé, présenté les choses, critiqué un peu la loi, puis amené un peu de Jésus, tout d'un coup, c'est carrément l'avertissement solennel, en plus en citant un prophète, qu'ils connaissent évidemment. Il n'a pas besoin de dire qui il cite. Au début du texte, ils savent tous qu'il est en train de citer la Septante de nouveau, et il cite il paraphrase le texte d'Habacuc. Or, est-ce que vous êtes allé voir de quoi il s'agissait dans Habacuc? Parce qu'au fond, tu dis, est-ce qu'il a choisi comme ça, pouf, un verset pour faire un peu peur, tu vois, prenez garde, etc. Ou est-ce qu'il a choisi en toute conscience un texte qui fait écho à cette oreille juive qui est là? Donc je relis quand même, je relis dans la Tobe, ce qui est un peu différent dans les autres versions. Il est en train de leur dire, mais attention, regardez, vous, les arrogants, alors on pourrait traduire ça autrement, les méprisants, les mépriseurs, hein, voilà, si on voulait aller au bout du texte, vous qui méprisez, sous-entendu, tout ce qu'on vous raconte, la loi, Dieu, patati patata, soyez frappés de stupeur et disparaissez. Alors évidemment, si moi je suis assis dans l'auditoire, Là, tu prends après la carotte, c'est le bâton, quoi. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se joue? Il cite Habacuc, et quand il cite Habacuc, il fait référence à une prophétie d'Habacuc au sujet des comportements d'Israël qui retournent leur veste, etc., en leur disant, mais vous savez, ça va vous arriver comme au temps des Chaldéens, il va y avoir un Nabucodonosor qui va venir, et vous allez voir que ça va pas rigoler. Au fond, c'est un peu ça, quoi. Il fait un lien entre la venue du Messie et quelque chose qui risque de leur tomber dessus, sous-entendu, s'ils n'accordent pas foi à ce Messie. Mais on peut aller plus loin dans la démonstration. Donc déjà, c'est bien si on comprend qu'il est en train de faire une analogie entre ce qui s'est passé du temps d'Habacuc par rapport à Israël et ce qui se passe maintenant. Et tout se joue dans « est-ce que tu crois ou tu ne crois pas ? » Est-ce que tu préfères garder ta loi de Moïse, sous-entendu ? Ce n'est pas méprisant ce que je dis. Hein. Est-ce que tu préfères garder ta petite loi de Moïse qui t'oblige à tout un tralala pour rester à peu près correct par rapport à Dieu ? Ou est-ce que tu veux d'un salut plein et entier ? Et auquel cas, il faut alors honorer le Messie. Ton Messie ! Attention, il n'est pas en train de faire de l'évangélisation chrétienne, là. Hein. Ce n'est pas des chrétiens qui essayent de convertir des juifs. C'est un juif qui parle aux juifs et qui leur dit « Moi, je sais que lui, c'est le Messie. Et si tu ne le suis pas maintenant, donc c'est une admonestation juive, si vous voulez, si tu ne le suis pas maintenant, il va t'arriver des bricoles. » Alors, est-ce qu'il a raison de dire ça?
Dieu, il a parlé par la bouche de Habakkuk, justement parce qu'il n'obéissait
pas. N'obéissait pas à la loi.
Exactement.
Et Dieu dit, je vais vous envoyer les Chaldéens, les Babyloniens. Et c'était apparemment un peuple très, très orgueilleux. Et tout.
Alors, un grand empire et un peuple très militaire.
Oui.
Donc, je veux dire que les conquêtes, ils en ont fait dans toute la Mésopotamie jusqu'en Égypte. Hein.
Oui. Et c'était un genre de punition de Dieu, si on peut le dire comme ça. Pour qu'il revienne à lui.
Bien sûr.
Et c'est chaque fois comme ça. Et nous, on ne comprend pas qu'ils ont abandonné le Seigneur tant de fois, mais qui sommes-nous, en fait. Mais pour moi, Paul dit, vous connaissez toute l'histoire, et c'était affreux. Faites attention de ne pas taper encore à côté.
Exactement.
Aujourd'hui,
Donc ça c'est bien, tu commences à bien dessiner le cadre de l'oreille juive qui entend ce discours, qui se dit, oh, peut-être qu'on doit faire gaffe quand même, parce que là il se passe quelque chose d'exceptionnel. D'ailleurs vous retrouverez cette admonestation en fin des actes, hein, au chapitre 28, je vais quand même le lire pour voir s'il y a une correspondance. Alors notre avertissement solennel ici est basé sur Habakkuk, qui lui-même était basé sur un texte d'Ésaïe. Mais dans acte 28, c'est purement Ésaïe qui est utilisé. Alors, je vais chercher dans 28. C'est pour dire que ce discours va rester quand même bien imprégné. 28, 26 et suivant. Et voilà. Bon, je lis un tout petit peu plus haut. Comme elle est juste, cette parole de l'Esprit Saint qui a déclaré à vos pères par le prophète Ésaïe, je cite, « Va trouver ce peuple et dis-lui, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi, c'est-à-dire orgueilleux. Hein. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre avec leur cœur, et pour ne pas se tourner vers Dieu. Et je les guérirai, dit l'Éternel. » Vous voyez, c'est quand même fort. Hein. Ça, c'est une citation, évidemment, du texte d'Ésaïe. Voilà, on voit donc, c'est quand même en filigrane dans les prédications des actes, l'idée de dire aux Juifs, faites attention, vous risquez de rater le coche, vous risquez de ne pas reconnaître celui qu'il faut reconnaître, qu'il faudrait reconnaître. Et alors du coup, on peut s'interroger sur la suite de l'utilisation de cette citation, parce que si Paul l'a choisie, c'est dans un but quand même assez précis. Elle nous oriente donc vers l'idée que les Juifs risquent de ne pas reconnaître, de méconnaître, hein, ce qui était déjà un argument au tout début de son discours, de ne pas reconnaître en Jésus le Messie. Et donc, cette parole des prophètes, alors, un petit détail ici, quand on dit, c'est avant la citation, ou pas. Bon, peu importe, c'est pas grave. Je sais pas si c'était ça mon raisonnement. Donc, cette parole des prophètes, elle est citée par l'apôtre pour souligner le lien de la méconnaissance des Juifs au sujet de Dieu et au sujet du Messie en particulier. En l'occurrence, il a choisi ce texte lui-même inspiré d'Ésaïe 29, d'un verset, le verset 14 dans Ésaïe 29. Une citation assez libre de la Septante, et c'est comme s'il déclarait aux Juifs que persister dans la méconnaissance impliquerait un jugement de Dieu sur eux. Sous-entendu dans le texte d'Habakkuk cité, une œuvre. Celui qui agit, c'est qui? En général, c'est Dieu. Hein? Donc, c'est pas l'homme, c'est pas l'œuvre de l'homme dont il s'agit ici. C'était une des questions que je vous avais posées d'ailleurs. De quelle œuvre parle-t-on? On y reviendra dans un moment. Oui, puisqu'Habakkuk avait prophétisé à propos des ravages matériels qui s'abattraient sur Jérusalem et la Judée, ce qui fut le cas, on le sait, avec Nabucodonosor et les Chaldéens. Et un des verbes grecs ici est très fort dans le tout début de la citation, Hein, regardez, vous les arrogants, soyez frappés de stupeur et disparaissez. Ce verbe, en tout cas pour le grec, hein, ce verbe est très fort, puisqu'il évoque une destruction totale. Vous voyez, c'est pas simplement allez vous cacher dans un coin, que je ne vous vois plus. Non, c'est disparaissez carrément de l'existence, disparaissez de la terre, et notamment de la terre promise, entre autres. Hein, voilà. Bon, disparaissez une bonne fois pour toutes, vous qui ne savez pas observer les choses telles qu'elles devraient l'être. Et donc, on parle d'une destruction de fond en comble, une destruction finalement. Mais du coup, ça pose la question, c'est quoi cette œuvre ? Qui le fait ? Alors j'ai déjà répondu en partie. Bah, en général, c'est Dieu. Seul Dieu agit vraiment dans l'histoire. Nous, les hommes, on croit qu'on agit, mais on fait plus de mal que de bien en réalité. Mais on peut donc émettre ici quelques hypothèses qui sont en filigrane, si vous voulez, à travers tout le discours de Paul dans cette synagogue, mais aussi dans les Écritures. Alors première chose, si vous faites attention à ce qu'il dit au sujet de l'œuvre, une œuvre que vous ne croiriez pas si quelqu'un vous la racontait. Si quelqu'un vous dit « voilà ce qui va se passer », vous ne pourriez pas le croire parce que c'est impensable. Une œuvre qui dépasse l'entendement. Une action qui est donc hors du commun, divine, hein, pour ne pas le dire autrement. Bon, déjà, on sait que s'il y a une œuvre qui va se dérouler, c'est celle de Dieu. Premier point. Deuxième point, une œuvre de jugement, comme au temps d'Habacuc. Donc c'est une œuvre divine pour mettre un terme aux bêtises du peuple, aux errances du peuple, aux erreurs du peuple, la méconnaissance du peuple, etc., notamment la méconnaissance du Messie. Et on peut peut-être se dire, nous, peut-être que le début de cette œuvre, c'est l'endurcissement, c'est l'épaississement du cœur dont il est question dans la citation de Acte 28, vous voyez, c'est l'endurcissement des Juifs. Ils sont aveuglés, d'ailleurs Paul le dira ailleurs dans ses épîtres, hein. Il y a comme une sorte de voile qui est posé sur le regard d'Israël pour qu'ils ne reconnaissent pas ce Messie afin que la promesse soit accomplie. C'est-à-dire, non pas qu'ils restent dans l'erreur, dans l'aveuglement, mais pour que pour un temps, cette espèce d'aveuglement serve au salut du plus grand nombre, c'est-à-dire de l'humanité. Et donc, endurcissement des Juifs à l'écoute de la bonne nouvelle pour permettre l'élargissement du salut. Parce qu'on peut effectivement se poser la question... Comment les païens auraient pu se tourner en masse comme ça vers le Christ s'il n'y avait pas eu une faillite quelque part ? Et là, c'est intéressant de voir que dès le début, on est au premier siècle, hein, les amis, on est au tout début de la prédication de l'Évangile, dans des synagogues, on n'est pas encore dans des publics à Athènes, sur la place Agora, etc. Non, on est vraiment dans des petits cercles fermés où il y a quelques païens qui croient un peu au Dieu d'Israël, et c'est tout. Et donc, pour que ça fasse un boom, et qu'en l'espace d'une génération, l'ensemble de l'Empire romain soit baigné par le christianisme, enfin, en tout cas par l'attachement au Messie, si vous voulez, on ne va pas encore l'appeler christianisme, par cette nouvelle voie du judaïsme, tout le bassin méditerranéen va être concerné, au point que même Rome va devoir croire nécessaire de spolier ses chrétiens, parce que c'est peut-être un contre-pouvoir hyper dangereux. En plus, ils militent pour l'abolition de l'esclavage, etc. C'est pas possible. Hein, donc cette bonne nouvelle, il faut l'étouffer. Et donc on peut se dire que la moisson, la grande moisson qui s'établit pour les païens, c'est ce qui va permettre à l'Église de devenir Église, partout dans le monde. Alors en l'espace de 2000 ans d'histoire, évidemment, parce qu'il y a encore des gens qui ne sont pas croyants aujourd'hui. Hein. Ok, donc ça c'est un deuxième point. Donc un jugement pour un bénéfice. Ce n'est pas un jugement pour punir Pâques, c'est un jugement qui amène autre chose. Troisièmement, est-ce que vous avez accordé de l'importance à cette déclaration de la citation qui dit « Je vais, en effet, de votre vivant, accomplir une œuvre ». Est-ce que Paul, qui est quand même un fin orateur, est-ce qu'il dit ça juste pour citer Habacuc, où il pense vraiment que ce qui risque de s'abattre, c'est sur la génération présente, celle à laquelle il parle.
Ah, et oui, parce qu'il pense au retour de Jésus immédiat aussi.
Alors, en partie, il y a ça dans la vision paulinienne, évidemment, puisqu'ils sont presque tous convaincus que ça ne va pas trop tarder. Le retour de Jésus en gloire, c'est pour bientôt, quoi. Ben, nous aussi, on le dit, hein, même si on sait qu'il y a 2000 ans qui se sont écoulés depuis. Mais donc, il y a effectivement une croyance très forte à la fin du 1er siècle qu'on est très proche de la fin. Il y avait de quoi à l'époque de l'Empire romain, plus les persécutions à la clé. Bon, on pouvait imaginer que peut-être que le Christ ferait bien de revenir. Hein. D'accord. Mais, même si Paul n'est pas très au clair sur ce qui va se passer, il a bien conscience que ce que les prophètes ont dit dans le passé à Israël, c'est le même genre de discours quasi-prophétique auquel il s'adonne maintenant lui-même. Ah, il ne sait peut-être pas quels vont être les aboutissements, mais moi je peux vous les dire. Parce que quand même, c'est très fort d'imaginer que c'est au sein de cette même génération que va s'exercer le fléau. Et quel est-il, à votre avis, le principal fléau qui va taper la nation ?
Destruction de Jérusalem en septembre.
C'est destruction de Jérusalem en septembre. Mais pas que. Une destruction d'ailleurs qui avait été symboliquement annoncée par le Christ lui-même.
Ouais.
Détruisez ce temple et en trois jours, etc. Quoi. Donc il y avait. C'est clair que pour la nation juive, pour une âme juive, le temple c'est l'essentiel. Le temple c'est tout. Et que chaque fois qu'ils ont été sévèrement punis au travers d'invasions diverses, c'est généralement au temple qu'on s'attaquait. Et d'ailleurs, quand ils se sentaient perdus, les Juifs allaient vite cacher tous les textes et toutes les ustensiles du culte, tout ce qui était en or précieux, etc. Ils allaient tout planquer dans des tunnels ou dans des cavernes pour que l'ennemi ne puisse pas s'emparer des objets cultuels, si vous voulez, pour profaner finalement le Saint des Saints, pour profaner Dieu lui-même. C'était quand même assez dingue. Quoi. Donc, on sait, nous, que très peu de temps après ce discours, imaginez, 30, 40 ans après, le discours de Paul va s'abattre le pire des fléaux. C'est non seulement la destruction du temple, pierre par pierre, mais c'est l'ensemble de la ville qui est détruite, brûlée. Oui, parce que même aujourd'hui, dans les fouilles archéologiques à Jérusalem même, on trouve les pierres calcinées de cette épopée romaine. Mais pas que, parce que qu'est-ce qui se passe en même temps? C'est la guerre. C'est pas simplement « j'anéantis le temple, on rase Jérusalem », c'est « on lutte ». Et d'ailleurs, il y avait des fractions armées. Vous vous rappelez l'histoire de Massada, par exemple, ça vous donne une idée. Ben, les Romains ont dû assiéger cette forteresse de Massada pendant des semaines et des semaines avant de pouvoir croire qu'ils aient gagné. Alors quand ils arrivent au sommet de Massada, il n'y a plus personne qui vit, tout le monde s'est tué. Donc c'est une piètre victoire finalement. Mais je continue, c'est quand même la guerre décrite par Joseph. C'est une grande partie du peuple qui est anéantie par les Romains qui, cette fois-ci, en ont ras-le-bol de ces Juifs et décide de les éliminer par centaines. Donc, éradication d'une partie du peuple, et ceux qui n'avaient pas été tués ont été déportés. La preuve, c'est que 2000 ans plus tard, ils reviennent seulement, j'ai envie de dire. Donc, cette fameuse punition divine, c'est quand même la perte du temple, la perte de Jérusalem, qui est pourtant la prière. La seule prière qu'un juif peut avoir aux lèvres, c'est l'année prochaine à Jérusalem. La perte de leur identité nationale, c'est-à-dire ils sont dispersés dans tout l'Empire romain et une grande partie des femmes deviennent des prostituées. Eh oui, pour ne leur donner aucune chance de se reproduire, de pouvoir continuer à croire en une nation. Donc c'est une punition, si je puis dire, quand même assez dramatique. Et qui va durer pendant quasi deux millénaires. Absence, ne plus pouvoir aller sur la terre promise, la terre d'Israël, ne plus pouvoir honorer Dieu à Jérusalem, ne plus pouvoir lui rendre un culte, ne pas offrir de sacrifice. Pendant 2000 ans, pas de sacrifice.
Mais il y avait déjà eu avant.
Bien sûr.
Ça va durer combien de temps?
Tu parles des exils.
Mais non, mais dans la destruction du temple après Salomon.
Oui, en général, quelques centaines d'années.
Il y a eu plusieurs siècles.
Ouais. Donc, ils sont bien au courant que Dieu peut faire des choses. Et qu'en général, c'est eux qui perdent parce que c'est eux qui doivent revenir vers Dieu. C'est dur à dire.
Ben oui.
Mais ça montre à quel point, quand même, Israël est un peuple pas facile.
C'est vrai.
Et qui passe une alliance avec Dieu, mais qui, en même temps... s'en détourne assez vite. Bon, c'est pas pour briller, nous, parce que nous, c'est pas beaucoup mieux.
Hein? C'est humain, ça.
Non, mais voilà. Donc, c'est difficile de tenir dans le long terme. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole.
Le fait que les Juifs ont dû supporter tout ça, aussi de la part de Dieu, ça nous a permis le salut, en fait. C'était un moyen de Dieu pour ramener à lui aussi les païens. Mais je trouve que c'est quand même dur.
Oui.
C'est... Il a presque sacrifié son peuple et par-dessus tout, son fils.
Son peuple, mais en même temps, tu remarqueras que dans les prophètes, il est toujours question d'un reste. Il est toujours question que dans une génération perverse, il y a au moins quelqu'un de bien. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Donc Dieu sait ce qu'il fait. Je pense qu'il suscite, à chaque fois, si tu veux, il suscite un nouveau peuple. Un peuple d'Israël rénové, si tu veux.
Et puis au départ,
c'est plus capable de reconnaître ses erreurs. Et d'ailleurs, excuse-moi de te couper la parole deux secondes, c'est quand même très étonnant de voir qu'après 2000 ans, d'exclusion, de perte de la terre, plus de sacrifices au temple, etc., plus que jamais ce peuple est croyant. Donc au fond, loin de les détourner de Dieu, absence de tous les repères qui leur étaient donnés fait qu'ils s'attachent réellement à Dieu. Donc finalement, je leur souhaite de ne pas avoir de troisième temple, personnellement, non pas juste pour empêcher une guerre, mais pour dire il vaut mieux qu'ils soient des hommes de foi que des hommes de règles et de réglementations et de rituels.
Oui, justement, parce qu'au départ, c'est le peuple qui est infidèle à l'Alliance. Et
dès le début, d'ailleurs.
Et alors, bon, moi, je n'emploierais pas le mot punition. Dieu essaye de leur faire comprendre que, justement, c'est important, cette Alliance, et que finalement le temple c'est pas tellement important que c'est lui et l'attachement à lui.
Donc l'alliance c'est la vie, être allié à Dieu c'est vivre réellement, et c'est pour ça que je dis que je crois que les Juifs d'aujourd'hui sont plus près de cette vérité que du temps de ce temple là. Et on peut comprendre d'ailleurs que les Juifs messianiques ont plus facile à suivre le Messie parce que tout ça les a préparés à justement. C'est pour ça que je me méfie quand même de ce discours sur le troisième temple tenu par des extrémistes en général. Parce que s'ils parvenaient à cela, de nouveau, on serait, je dirais, dans quelque chose de pas très pur. Alors, ça serait quand même assez incroyable, quoi. Tu construis un temple pour honorer le Dieu saint, mais tu fais des crasses pour y arriver, quoi. Voilà.
Oui, mais d'un autre côté, s'ils sont complètement ancrés toujours dans cette vieille croyances et traditions, leur seul but, c'est de remettre le temple. On peut comprendre qu'ils aient ce but de vouloir remettre le temple à sa place.
C'est une minorité très petite. Mais ils ont préparé même tous les instruments. Déjà.
Ouais,
c'est formidable.
Et puis Trump a choisi comment est-ce qu'ils appellent ça, un sénateur, je ne sais pas quoi, mais lui, il est pour la reconstruction du temple.
C'est
pas un juif. Il n'est pas juif.
Ben comme tu as des chrétiens qui le sont aussi.
Pas le type qui croit tout ce qu'il voit. Il ne croit pas les gens. Tout ça. Les microbes, ça n'existe pas.
Non, c'est pas ça.
Je vais vous dire ce que j'ai entendu dans une réunion. C'était une réunion d'aviso à Nathania. Il y avait une fête juive. On était présents. Et une dame demande au rabbin qui était là: Monsieur le rabbin, dites-nous. comment ça va se passer pour le troisième temple ? Il répond, mais madame, c'est tout simple. Quand Dieu voudra, il descendra tout construit du ciel. Oui, il descendra tout construit du ciel.
C'était pas une mauvaise réponse. Il faut l'interpréter.
Quand Dieu
voudra.
Mais
d'ailleurs, je crois qu'un rabbin, un vrai rabbin, tiendra toujours compte du fait que le temple, c'est d'abord Dieu. C'est pas juste une œuvre humaine, reconstruire un truc pour le reconstruire, n'a aucun sens, si ce n'est Dieu qui l'amène, effectivement.
Oui, voilà, c'est ça, parce que le temple était quand même construit par Salomon.
Oui. Le dernier temple par Hérode, pendant 40 ans. Oui, c'était déjà une œuvre bassement humaine. On voit comment ça a fini, d'ailleurs. Alors, ce qui est intéressant pour nous, alors pour l'oreille chrétienne, c'est un troisième temple, mais ça fait penser à l'Apocalypse, à la Nouvelle Jérusalem, etc. Même si tout ça est très très symbolique, évidemment.
Et finalement, s'ils n'ont pas le temple, ils ne savent plus sacrifier.
Non.
Donc.
Mais raison de plus, c'est pour ça que je te dis que ça cultive le lien de l'attachement à Dieu plutôt que le respect de règles qui, elles, ne sauvent pas.
Oui, mais dans l'esprit. Dans l'esprit profond, et le désir. Parce que ce sont des religieux.
Oui, mais tu sais, le judaïsme se porte très bien sans les sacrifices. Hein, ils ont fait avec. Hein. Donc pourquoi ça ne devrait pas continuer ? Puisque c'est quand même, ils le reconnaissent eux-mêmes. Si on en est là, c'est aussi à cause de Dieu. S'ils ont été en exil pendant si longtemps, et loin de la terre promise, et loin de Jérusalem. À qui la faute ? À eux d'abord ? Parce que généralement, si Dieu agit, c'est parce qu'on déviait complètement. Et c'était le cas, on le voit bien au premier siècle. Un espèce de gouvernement apostat, si tu veux, qui se prétend juif mais qui ne l'est pas, qui n'honore absolument pas Dieu, et puis une classe politique et religieuse qui magouille un peu et qui tue des innocents. Bah écoute, désolé. Comprend que Dieu soit manifesté au bout d'un temps. Alors, un petit dernier point quand même au sujet de l'œuvre. Eh bien, moi, je me demande si le succès de la bonne nouvelle, un succès rapide, hein, je le rappelle, notamment auprès des païens, est-ce que ce n'est pas une des faces de ce jugement du style, alors je raccourcis très fort, vous croyez que vous pouvez honorer Dieu comme ça, vous pouvez dévier, faire vos petites histoires, ben regardez. Regardez ce que ça fait chez les païens quand on leur prêche le Dieu d'Israël. En général, ils essayent de suivre, ils font tout ce qu'ils peuvent pour comprendre. Parce que quand même, il y a un sacré décalage. Imagine les nations païennes de l'époque par rapport au judaïsme. Eux qui ont plein de croyances, des tonnes de croyances en des dieux, mais alors abracadabrants, et puis qui se tournent d'un seul coup par milliers vers le Dieu d'Israël. C'est une manière, si tu veux, de mettre aussi cette promesse faite à Abraham en exergue, vraiment, elle est là, visible sous leurs yeux, mais même ça, d'ailleurs on va le voir dans la suite du texte, la prochaine fois qu'on fera une étude, ça va vite dévier quand même, l'engouement des juifs va être, quand ils voient le succès auprès des païens, non, alors là ils n'en veulent plus, quoi.
Enfin, tu veux dire, Yves, qu'il y a cet aspect de l'œuvre punition.
Oui.
Destruction, exil, etc., mais aussi l'œuvre créatrice de Jésus-Christ.
Tout à fait. Nouvelle, complètement nouvelle, qui d'ailleurs.
Et que la plupart.
Qui d'ailleurs est un scandale, évidemment.
On le raconte et ils n'y croient pas.
Exactement. C'est impossible. C'est impossible de croire que la réalisation de la promesse d'Abraham, ce soit ça. Pourtant, c'est clair. Très, très clair. Trop clair, peut-être. Et donc, je lis quand même ma phrase ici. Au fond, je suis en train de dire la propagation du salut serait devenue une bénédiction perpétuelle pour les uns, c'est-à-dire les païens, qui acceptent par la foi, et une malédiction temporaire pour les autres, sous-entendu les juifs. Car il fallait ce temps d'écart, ce temps de mise en exil, si tu veux, pour à la fois permettre aux païens d'embrasser le Dieu d'Israël, de manière très vaste, hein, sur l'ensemble de la planète, et en même temps permettre à Israël de travailler son retour à Dieu, y compris son retour dans la terre promise, puisque rappelez-vous, les prières, quasi à chaque Shabbat, à chaque fête juive, c'est l'année prochaine à Jérusalem. Donc il y a toujours eu cet espoir de revenir quand Dieu le voudra. Revenir, mettre les pieds dans la terre d'Israël et y vivre une bonne fois pour toutes, et puis avoir le Messie avec nous.
Mais c'est pas la première fois qu'il utilise, si c'est bien Paul, qu'il utilise cette ambivalence. Quand il y a un verset qui dit...
Dans ses épîtres, on retrouve souvent...
Oui, on retrouve cette idée. Une odeur de mort et une odeur de vie. Je ne sais plus où c'est.
Ouais.
Donc, ça me fait, ce que tu dis, ça me fait toujours penser à cette image de l'épée à double tranchant. Il y a un côté bénéfique et puis un côté moins bénéfique. Mais les deux servent la cause de Dieu. Donc, quelque part, cette épée à double tranchant, elle va permettre au peuple juif de revenir en toute conscience dans l'alliance, dans le rapprochement à Dieu, et y compris, enfin, moi, c'est ce que je crois personnellement, un retour en 48 qui ne peut pas s'expliquer autrement que par la présence de Dieu. Ça ne s'explique pas autrement non plus la chute du mur de Berlin, autrement que par un aveuglement tel pour la classe politique que l'Église finit par gagner, parce que l'Église a milité, à l'Est en tout cas, pendant des mois et des mois, en disant qu'il fallait maintenant la liberté. L'Église qui contestait dans les rues ce pouvoir politique. Et tu pouvais t'attendre à une répression sanglante, comme ça a été le cas en Tchécoslovaquie et partout ailleurs, en Hongrie. Mais non, plus personne n'a bougé, ni les Russes, ni la Stasi à l'Est. Et on a laissé aller les choses à tel point que la liberté est devenue une réalité. En l'espace d'une nuit. Inimaginable. Sauf par aveuglement. Et moi, j'explique ces aveuglements dans l'histoire comme cette manifestation de Dieu, l'agir de Dieu. Cette fameuse œuvre dont on parle ici dans Habacuc, quoi. Quelque chose de tellement incroyable qui se passe au bénéfice de tout le monde, finalement. Mais on pourrait en discuter des heures. On pourrait aussi se disputer un peu là-dessus, parce que où est la limite, alors, tu vois? Quand est-ce que Dieu est dans une action punitive? Quand est-ce qu'il ne l'est plus? Quand est-ce qu'il ne l'est pas? Bon, et puis nous, chrétiens, on lit souvent aussi ça. Par rapport à Israël, hein, que Israël a été saqué, si tu veux, et puis nous, on est bien meilleurs. Bon, de temps en temps, on est saqué aussi. Hein. Donc, revenons à nos moutons. Donc maintenant, voyons un petit peu qu'est-ce qui se passe après. Donc, verset 42, on nous dit, on pria instamment Paul et Barnabas de reparler du même sujet le sabbat suivant. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, Elisabeth, ils ont vraiment mordu à l'hameçon. Ils en veulent plus. Plus de démonstrations, plus de ci, plus de là. Tout ça a l'air super, super bien. Alors, c'est qui ce « on »
J'imagine que ce sont les responsables.
Ah, je l'espère, parce qu'on lit quand même dans des commentaires qui essayent d'arrondir les angles, que c'est finalement les craignants Dieu qui auraient insisté... Comme s'il faisait la loi à la synagogue, tu vois. Bon, c'est n'importe quoi. Quand on en arrive à des commentaires pareils, tu te dis, bon, il faut quand même lire le texte convenablement. On pria, ben c'est effectivement les responsables de la synagogue. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont... Le service est terminé, et au moment où ils allaient sortir de la synagogue, les responsables les accrochent tous les deux, leur disent, dites, sabbat suivant, vous êtes là. Bon, ok, alors c'est à vous de parler sabbat suivant sur le même sujet. Plutôt positif. On se dit, ouh, super hein. Et les paroles dont il est question, c'est arémata en grec. Hein, c'est de nouveau des paroles, comment dirais-je, de type spirituel, si vous voulez, au sujet de l'intervention de Dieu dans l'histoire. C'est pas juste des paroles logos, c'est pas blablaté sur l'écriture.
C'est les événements aussi.
C'est les événements. C'est, voilà, tout ce que vous nous avez décrit, ça nous intéresse. C'est des événements messianiques. On veut essayer de comprendre encore un peu plus, etc. Donc on était plutôt bien parti hein, dans la réaction. Ces responsables, ils ont été marqués, vraiment marqués par l'exhortation de Paul. Et d'ailleurs l'ensemble de l'auditoire, puisqu'il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu d'offuscation devant ce que l'apôtre dit. Il a donc gagné l'attention de son auditoire et une invitation à la clé. à poursuivre son enseignement le sabbat suivant.
Est-ce qu'il y a discussion pendant...
Ça peut arriver. Surtout si c'est conçu comme une... Alors, en général, à la synagogue, moins. Tu as moins d'ouverture pour poser des questions. Mais il n'est pas rare, effectivement, dans l'enseignement traditionnel du judaïsme et encore aujourd'hui, d'agir par question-réponse. Mais ici, il ne semble pas avoir été interrompu en aucun cas. Il a pu délivrer l'ensemble de son discours sans que ça pose de gros problèmes. Donc, on les aborde. Et verset 43, c'est seulement quand l'assemblée s'est dispersée, donc ils sont bien out, dehors, en dehors du lieu, si vous voulez, c'est à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Il y a d'autres qui se séparent, il y a quand même un petit peu une séparation. Hein.
On les suit.
Il y en a qui ont dit, ben, on se verra la semaine prochaine, bonne semaine.
On va en savoir plus tout de suite.
Bonne santé. D'accord. Et puis d'autres qui suivent.
Tout de suite.
Donc, c'est intéressant comme petit détail parce que ça montre qu'une partie de l'auditoire, alors on nous dit bien ici très clairement juifs et prosélytes, hein. Donc il y a les deux. Les deux sont bien représentés, et bien qu'est-ce qu'ils font ? Ils les suivent. On dirait, ils les suivent où ? Ben, sans doute à leur lieu de villégiature. Voilà, eux, ils partent de la synagogue et. Ils vont peut-être aller manger un bout et puis dormir chez eux, faire la sieste. Ben non. Comme on le voit dans beaucoup de récits bibliques, quand on a des orateurs qui émeuvent le peuple suit. Parce qu'ils ne veulent rien perdre. D'ailleurs, si vous faites attention, vous avez peut-être lu le reste du texte, vous vous apercevez que la semaine suivante, c'est plus 20% de païens. C'est toute la ville. Enfin, sans doute une manière de s'exprimer aussi chez Luc. Mais c'est des centaines et des centaines de païens qui viennent à la synagogue. Mais on en reparlera plus tard. Donc, on peut se dire que l'enseignement qui est donné à ce moment-là, donc je reprends le verset 43, ils accompagnèrent Paul et Barnabas qui... Alors, nous, on a des entretiens dans la tome, mais ce n'est pas très fidèle au grec. Hein. On pourrait plutôt parler d'enseignement, de témoignage, tout ce qu'on veut. Dire que c'est dans leurs entretiens avec eux, on a l'impression qu'il y a eu plein d'entretiens. Maintenant,
des questionnements, tu vois.
En tout cas, il y a eu quelque chose qui a été un échange avec ce groupe de juifs et de craignants Dieu, de prosélytes, un échange entre les deux personnages, Paul et Barnabas et eux, qui a peut-être duré tout le long de la semaine. Donc ça, on n'en sait rien. Mais on imagine bien que si des centaines de païens viennent la semaine suivante à la synagogue, c'est parce qu'ils ont entendu parler. Quelqu'un a parlé. Et c'est pas juste le discours. Tiens, moi j'ai entendu un discours à la synagogue samedi passé. Non, non. Je pense qu'il y a eu des enseignements qui se sont suivis. Puis ça fait tache d'huile. Et puis les familles se tournent vers... dire, ah, chouette, quel discours incroyable, etc. Et puis, on sait tous maintenant qu'ils vont se refaire la version bis de leur discours la semaine suivante, on va y aller. C'est quand même assez... Moi, je trouve ça très beau. Personnellement, j'imagine des centaines de païens qui filent vers une synagogue dans laquelle ils n'ont jamais mis les pieds auparavant. Et puis... est-ce que c'est pas finalement un succès incroyable ? Parce qu'encore une fois, Paul et Barnabas, c'est des juifs qui parlent aux juifs. Ouais. Donc c'est pas juste des juifs qui ont parlé à des païens. Mais le résultat de ce discours et des entretiens qui ont suivi, c'est que des centaines de païens se tournent vers la synagogue en se disant, pour une fois qu'il y a quelque chose d'incroyable, on va y aller. On va essayer de comprendre ce qui se passe.
Ce qui est beau, c'est que Paul ne l'a pas fait dans l'esprit. Je parle aux Juifs. Ah tiens, surpris, il y a des païens aussi. Il avait déjà cette notion que c'était ouvert aux non-Juifs.
Alors,
jubilé en même temps.
Il en a d'autant plus conscience que, rappelons-nous, ils sont partis d'Antioche.
Il était envoyé pour ça.
Oui, ah, exactement.
Ouais. C'était sa mission.
Antioche, Chypre, etc. C'était ils ont déjà commencé un petit boulot comme ça, au point de convertir de nouveau un Romain, au passage à Chypre. Donc, il a quand même bien conscience que... Puis il a aussi conscience de sa vocation, qui est théoriquement de se tourner vers les païens. mais toujours en privilégiant Israël. Donc d'abord les Juifs, en espérant qu'ils entendent la bonne nouvelle. Ce qui est le cas, hein, souvent, il y a quand même des conversions, quoi.
Et ça, en même temps, pour Paul, probablement, il fait une distinction entre juifs et païens, il la connaît, mais pour lui, dans sa tête, ça c'est clair qu'il n'y a plus de distinction. Il y a tout simplement la créature qui se tourne vers le Créateur.
Et ce qui est intéressant dans la finale ici, c'est qu'on nous donne la raison du succès paulinien. Parce que, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais... quel est l'objet des entretiens ? C'est de rester attaché à la grâce de Dieu. C'est-à-dire, en charité en grec, c'est-à-dire à, justement à cette bienveillance, à ce pardon accordé en Jésus le Messie. Donc c'est comme si Paul, au fil de la semaine, si vous voulez, et Barnabas ont insisté sur l'attachement au Christ pour être inondés de grâce, si tu veux. Et c'est peut-être ça qui est l'hameçon qui fait que des centaines de païens vont se joindre au prochain service sabbatique, c'est qu'ils ont entendu parler de quelque chose où ils pourraient enfin, eux aussi, être pardonnés. Parce que leurs dieux ne leur font pas de cadeaux, hein, aux autres, aux païens. C'est aussi très exigeant. Et parfois même, c'est beaucoup plus douloureux que dans le judaïsme, puisque ces dieux, on ne sait pas trop s'ils sont bons ou pas bons, quoi. Alors il faut les amadouer, parce que sinon on risque de mourir ou d'être puni. Ou... Ouais. Puis à côté de ça, il y a tout ce côté idolâtre.
Mais dans la grâce, c'est pas toujours évident, comme moi je le vois. On est sauvé par grâce, mais des fois, on en rajoute très bien encore des œuvres. Mmh. Ou bien on pense qu'on doit performer parce que sinon, est-ce que Dieu m'accepterait quand même?
Oui.
Et c'est très difficile aussi de constamment vivre dans cet état de grâce. On en a parlé dernièrement aussi, et avec ma soeur et mon beau-frère une fois aussi. C'est quoi en fait la grâce? Oui, c'est une faveur. Mmh. Un faveur qu'on n'a pas mérité, mais souvent nous on pense encore, j'ai l'impression qu'il faut rajouter quelque chose à la grâce. Or, il n'y a rien que la foi en Jésus et le sacrifice de Jésus.
Complètement justifié en lui,
ne
rien devoir prouver.
Oui, voilà. Et donc ils insistent là-dessus et je peux le comprendre parce qu'on l'oublie facilement.
Mm-hmm. En tout cas, moi, ce qui me séduit très fort dans cette finale, si tu veux, c'est que on voit que les Juifs sont associés aux prosélytes, que ce n'est pas un camp contre l'autre, même si une partie des autres ne sont pas suivis, ça c'est autre chose. On a donc bien les deux représentés, et c'est plutôt, ouais, c'est plutôt bénéfique pour le futur. Bon, après, on a le reste de l'histoire qu'on étudiera la prochaine fois. C'est ce qui ne veut pas dire, hein, attention, parce que ce qu'on va découvrir dans la suite du texte, ça ne veut pas dire qu'il y a échec. C'est pas parce qu'ils sont chassés d'Antioche de Pisidie que Paul et Barnabas ont perdu. Pourquoi je dis ça? Vous avez lu le reste du texte ou pas? Non. Alors il faut.
Mais c'est la semaine prochaine.
Il faut lire. Le suspense, tu vois.
Je peux poser encore une question?
Ben oui, oui, oui.
Pourtant.
Donc, mais je m'interroge face à la mise en garde comme ça, un peu menaçante, parce que, bon, comme je fréquente beaucoup d'athées et des gens qui sont dans le nouvel âge et compagnie, pente du spiritisme et tout ça, avec ce discours-là, que ma fille plus jeune a plus tôt, hein, bon, le spiritisme s'est défendu par Dieu avec des références bibliques, etc. Hein, Et qu'est-ce qui arrive, que je vois, j'ai deux qui vont là-dedans, ta fille, elle est sectaire, et donc, il s'éloigne plutôt, au lieu de rapprocher de Dieu, c'est l'inverse qui se passe. Et elle me dit, maman, t'es bien trop cool, t'es pas... Donc, fallait être plus franche que ça.
Hein. Il y a eu une période, enfin, même dans notre milieu évangélique à nous, hein, protestants, où on prêchait plus l'enfer que la grâce. Hein. Donc ça, c'est clair, des discours menaçants, des discours qui font peur.
Et donc, moi, je donne les versets, hein, mais je ne manque l'intention, je les écoute plutôt. Quelle est leur intention à aller là-dedans, à prier pour autre côté, voilà. Et voir leur intention positive, quoi, voir leur point positif. Et puis je donne les versets, mais en me disant, voilà, je sers, et c'est Dieu qui va pouvoir les faire changer d'avis et pas moi. Et elle me dit, mais non, hein, t'es pas assez radical, hein, et c'est par miséricorde qu'elle dit ça, hein, c'est pas pour suivre hein, la loi pour la loi, c'est par miséricorde pour les sauver, quoi, hein, qui viennent à Jésus. On est tous les deux dans la même optique, le même but, mais avec des façons de faire différentes. Et bon, je m'interroge par rapport à ce qui est le mieux, quoi. Et en plus, dimanche, puisqu'on va de temps en temps au guillemets, là, un peu, voilà, évangéliser par différents biais, prière de guérison et tout ça. Et une jeune fille, j'ai approché, son copain avait une croix, j'ai approché, on a des approches différentes suivant les personnes qu'on rencontre. Et donc, oh oui, mais c'est parce que c'est la mode, hein, je ne suis pas plus croyant que ça, les jeunes maintenant ils mettent des croix hein, comme ils pourraient mettre une étoile. Et puis, après un moment, on va discuter sur leurs études, je demande à la fille si elle croit. Oh ben, Dieu, oh ben pas du tout. Moi, je suis depuis 7 ans dans le satanisme. Et donc, de nouveau, c'est comme face aux musulmans, j'ai dit que je connaissais, que j'avais entendu des témoignages, comment c'est un bien-être à première vue et une efficacité, mais comment souvent, dans les témoignages que j'ai entendus, qu'il faut des années pour être délivré de ça. Hein? Mais je veux dire, on est pauvre de. Enfin, je suis pauvre. Comment je rencontre de plus en plus de gens comme ça où je dis 2-3 babioles, quoi, c'est difficile de comment.
Sur la première partie de ta question, la menace n'est pas une stratégie d'évangélisation. Donc, en l'occurrence, ici, c'est le prophète qui menace le peuple de l'Alliance de ne pas avoir tenu l'Alliance pour bonne. Oui. D'accord ? Donc, c'est totalement différent. Nous, si nous concevions l'évangélisation comme attention, si tu ne te convertis pas, il va t'arriver des bricoles, à mon avis, c'est inopérant. D'ailleurs, tu ne verras aucun des discours dans la suite des actes qui dit aux païens ce genre de choses. Au contraire, tu as un Paul qui va se servir des dieux, hein, du Parthénon, pour dire, mais moi j'en connais un autre. Hein, voilà, un dieu que vous ne connaissez pas, mais je vais vous en parler. Donc il utilise la culture, il utilise les traditions pour arriver à présenter. Mais c'est nous qui avons beaucoup de mal, je pense, en tant qu'Église, parce qu'on a été une Église triomphante. Bon, admet quand même que depuis le IIIe siècle, on a toujours fait la pluie et le beau temps, même sur le plan politique. On a beaucoup de mal à imaginer une parole, je dirais, plus neutre et plus bienveillante. Une parole d'homme à homme au sujet de la croyance que l'on a. Et non pas d'une institution qui veut imposer sa vision du salut ou son salut au peuple. Ça demande quand même beaucoup d'humilité, quoi. C'est un peu... Et donc, pour en revenir à ton propos, il y a des moments où moi-même, je trouve que certains gens sont trop radicaux dans l'annonce de ce qu'ils pensent être la bonne nouvelle. Au point, finalement, de froisser l'auditeur plutôt que d'ouvrir son cœur.
Le problème, quand on fait les actions comme vous faites, on rencontre une fois une personne et on aimerait bien tout de suite, tu vois.
Le résultat. Oui.
Et ça, c'est très difficile. Par contre, maintenant, je sais que... Donc, Aujourd'hui, on est jeudi. Aujourd'hui, demain et après-demain, il y a de très grandes actions d'évangélisation dans le centre d'Amsterdam où il y a eu des émeutes et tout le bazar. Ouais. Et c'est beaucoup de personnes qui participent à ça. Et moi, je ne sais pas comment ils font. Hein. Les organisations, ils ont l'habitude. En Hollande, on fait ça assez souvent. Mais... on verra les résultats. On ne sait pas. Bon, il y a des gens qui disent qu'il faut annoncer l'évangile. Hein? C'est indispensable. La parole de Dieu, elle fait vivre. Mais bon, nous, on a eu un voisin qui était spirit aussi, hein? En plein dedans. Bernard a déjà eu l'occasion d'aller promener avec lui une fois sur le Ravel et tout ça. C'est quelqu'un de très respectueux. Il dit on a du respect. Il n'aime pas quand quelqu'un jette un papier à terre. Il était très très sensible, mais fermé à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que vous voulez faire?
C'est l'Esprit de Dieu qui peut tout.
Oui, voilà.
La Bible dit que l'Évangile est une bonne nouvelle. Et donc, comment pouvoir expliquer la bonne nouvelle du salut en Jésus? Et il faut presque passer par le fait aussi que le péché condamne, le péché détruit, mais que Dieu sauve. Et c'est là on tourne autour de cela.
Et c'est encore plus compliqué en Occident d'annoncer ça.
Attention, la plupart du temps, c'est le côté bonne nouvelle et guérison et tout l'apport de paix, de joie, c'est tout le côté bonne nouvelle de Jésus. Hein, c'est juste devant des gens qui sont dans l'occulte et tout ça, et l'ésotérisme où elle dit il faut être ferme là, hein, il faut citer la parole parce que sinon... ils vont continuer et donc on manque de miséricorde si on est trop souple.
Pourquoi dis-tu qu'en Europe c'est plus difficile qu'ailleurs?
Parce que nous on a quand même une... Alors déjà on a le côté cartésien des choses qui fait qu'on est un peu éloigné des choses un peu plus spies. Et puis la deuxième chose c'est l'espèce d'opulence dans laquelle nous sommes encore, même si la crise est à deux doigts de nous rendre un peu plus pauvres demain. Mais donc tout ça, c'est des barrières, on se sent tellement bien, et dans ce côté aussi très individualiste où on fait ce qu'on veut, je fais ce que je veux quand je veux, il n'y a personne qui a des trucs à me dire, alors tu imagines bien, tu vas lui dire, écoute, t'es dans le péché, ça, déjà le mot en soi, c'est clair, moi je trouve que c'est plus compliqué, parce que j'ai vu de l'évangélisation ailleurs, notamment en Afrique, et je peux dire qu'il y a toujours un résultat. Il n'y a rien à faire parce que les gens sont moins piégés par le côté matérialiste déjà, un peu plus ouverts aussi au côté spirituel déjà. Alors que nous, avec la philosophie des Lumières, on a quand même perdu une liberté à ce niveau-là. C'est pas comme avant, quoi.
Parce que je pense qu'en Afrique, Dieu
c'est
existe.
C'est un concept
quoi,
naturel. Hein, ouais. Tout à fait.
Pas chez nous. Dieu non plus qui existe en Afrique, hein, je vais dire. Rebecca était là avec tout un groupe de l'église il y a 2 ans ou 3 ans, avant qu'elle ne se marie déjà. 3 ans, ils ont eu une résistance incroyable. Hein. Et il y en a qui ont vu, je ne dirais pas le diable, mais le démon chez eux dans la chambre, ils voulaient les attaquer. Et là où la lumière arrive, il y a aussi des résistances. Et ça, c'est tout à fait normal. Et Satan ne va pas lâcher ses proies. Hein. C'est ce qu'il ne veut pas.
Oui, mais...
Et comment...
Ce que tu dois comprendre, c'est qu'en Afrique comme en Asie d'ailleurs, peut-être même en Amérique du Sud pour une part, les choses spirituelles font partie de la vie. Mmh. Qu'elles soient mauvaises, démoniaques ou très bonnes. Oui. Tandis qu'ici, à cause de la philosophie des Lumières, on ne croit ni au diable, ni à Dieu. En gros, je caricature. Mais donc, on a perdu cette affinité avec qui l'on est vraiment, un être spirituel.
Mais il y a de plus en plus quand même de l'ésotérisme et des gens qui croient n'importe quoi.
Ah oui, ça, c'est clair.
Sauf à Jésus. Donc, les gens ici en Europe sont religieux aussi, hein, et de plus en plus religieux. Ils adorent la nature. C'est l'autre côté... De la médaille.
Bien que tu regardes des documentaires sur l'Amérique du Sud, notamment hein, la Terre-Mère, qui est presque vénérée comme un dieu, et où on offre toutes sortes d'offrandes à la Terre-Mère pour pouvoir avoir la bénédiction de la Terre-Mère, c'est inimaginable. C'est vrai que chez eux, ils sont très sensibles. Hein, très sensibles.
Des traditions
indiennes. Dès qu'on descend en dessous de l'équateur, tu peux pour schématiser. En Italie, on est très, très aussi. Quand on n'est pas baigné dans la vérité de Dieu, on est dans beaucoup de choses.